Bienvenue au QG des héros, le podcast où je te parle de développement personnel, de gamification et d'entrepreneuriat durable. Dans cette première saison, je te fais part de l'aventure dans laquelle je me lance pour devenir ludothérapeute autodidacte. Le tout dans le jeu, l'humour et la bienveillance. Bonjour chers auditeurs, auditrices, nous voici dans l'épisode 3 de la saison 1, le QG des héros, je crée ma légende, et aujourd'hui donc, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Thomas Piton, qui fait de l'accompagnement depuis très longtemps.
Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas, comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va bien. Merci de m'accueillir ici chez toi.
Avec plaisir, pour cette interview. Merci
d'être venu. Yeah. Je vais, pour commencer, te demander si tu peux, en 5 minutes, te présenter, faire une présentation donc, du coup succincte, et en même temps, présenter les différents accompagnements que tu proposes.
Ok, je m'appelle Thomas, j'ai une quarantaine d'années, et puis j'ai plusieurs grandes périodes dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative. Je suis à un épisode qui n'est pas l'épisode 1, donc j'ai fait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, j'arrive dans une phase où je fais plusieurs choses en même temps parce que j'ai compris que c'était ça dont j'avais besoin, c'est ça qui me nourrissait et puis qui faisait du sens pour moi. Mmh. Et parmi les différentes choses que je fais, il y a des choses effectivement qui peuvent relever de l'accompagnement. Mmh. Donc je fais des bilans de compétences,
okay.
Pour aider des personnes à trouver leur voie et avant tout à comprendre qui elles sont.
Yes.
Parce que c'est le préalable à construire un projet, qu'il soit professionnel ou autre.
Yes.
Donc il y a les bilans de compétences, je suis médiateur aussi. Mm-hmm. Donc dans la médiation, on accompagne des gens à essayer de reconstruire une relation qui était dégradée pour réussir à se parler à nouveau et résoudre des problématiques concrètes, mais qui existent parce que la relation est dégradée.
D'accord.
J'accompagne aussi des entreprises, des dirigeants d'entreprises,
okay.
dans la restructuration, dans la reconstruction de leurs équipes, dans l'évolution vers de nouveaux projets,
mm-hmm.
À sortir parfois de difficultés aussi. Et puis un autre gros volet de mon activité, c'est le game design.
Mmh.
Donc créer des jeux à proposer principalement à des grands groupes, des team building, ce genre de choses.
Okay.
Et puis la gamification, c'est-à-dire apporter un aspect jeu, un aspect ludique dans des projets qui existent déjà. Là aussi, il y a un gros volet d'accompagnement parce que j'ai des personnes en face de moi qui ont l'idée que ce serait bien de faire du jeu à l'intérieur de leur projet,
okay.
et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre.
Mmh.
Donc, il va falloir creuser le pourquoi ils ont envie de faire un jeu et puis les rendre acteurs aussi de leur projet.
Mmh.
Donc, finalement, dans le point déterminant commun de toutes mes activités, c'est le projet. À chaque fois, j'accompagne des gens à réaliser un projet.
Okay.
Et pour moi, c'est vraiment indissociable, cette notion de l'accompagnement, parce que tout est projet dans la vie, en fait. Hein.
Mmh.
Tu ne sais pas ce que tu vas manger ce midi, c'est un projet déjà. Est-ce que tu vas acheter quelque chose de prêt? Est-ce que tu vas préparer?
Mmh. Mmh.
Qu'est-ce que tu vas faire? Les projets, ça peut être ce genre de petites choses. Ça peut être de savoir ce que tu veux faire de ta vie professionnelle.
Mmh.
Ça peut être décider de ce que tu veux faire de l'avenir de ton couple. D'avoir un enfant ou non, de choisir un lieu de vie. Tout potentiellement est projet et les humains ont cette caractéristique qu'ils ont du mal à faire des choix, souvent, parce qu'ils ont du mal à se poser les questions qui leur permettraient de faire les choix.
Mmh, les bonnes questions.
Les bonnes questions, c'est ça, voilà. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans toutes ces situations-là, c'est amener les gens, non pas vers leur proposer des réponses, mais leur proposer des questions qui peuvent les aider à prendre des décisions, en fait. Que ce soit pour savoir ce qu'ils vont manger demain, ou s'ils doivent accepter un travail, s'ils doivent monter une entreprise. Voilà, c'est tout ça. Donc le point commun, c'est ça pour moi. L'accompagnement, c'est accompagner des gens dans un projet.
Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, les questions, je pense qu'on est assez fort pour s'en poser plein, mais des fois, je pense que c'est effectivement, on tombe dans un... dans un flux de questionnement qui n'est pas forcément très pertinent.
Et donc je pense que ton accompagnement aussi, c'est amener les gens à se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer pleinement sur la voie qui les correspond le mieux.
On part du principe que les réponses, quand tu poses une question à quelqu'un, il a la réponse. Mmh. Si les gens sont bloqués dans l'avancée de leur projet ou dans la détermination de ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils n'ont pas la question. C'est ça le bloquant en fait. Parce que si la question, je parle vraiment des questions fondamentales, de demander à quelqu'un qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier, c'est pas une question fondamentale. Il y a plein de sous-questions derrière. Qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te coûte, qu'est-ce qui ne te coûte pas, quelles sont tes valeurs. À quoi tu aspires, et c'est quand on a répondu à toutes ces questions fondamentales que la grande question, on peut y répondre. Mais les questions fondamentales, les gens ont les réponses et on leur suggère même pas.
Tout à fait. Bah, ça fait bien écho parce que j'ai fait une formation de live designing avec Jennifer Vigneault. Donc, c'est pour devenir en gros Blue Chief Happiness, donc chef du bonheur au travail. Donc ça me parle beaucoup là, ce que tu évoques. Mais je vais revenir au jeu puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi à travers l'association que j'ai créée, Compagnons de Jeu.
Ouais.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tu, comme je te l'ai annoncé, de toute façon, ce podcast aura une dimension ludique.
Très bien.
Donc on va enchaîner avec des questions, mais avec une dimension donc, de jeu. Je pars sur, comme support, justement, pour amener cette dimension de fun et d'amusement, je pars sur un jeu qui est assez connu, qui est l'édition Le Droit de Perdre. Donc ça s'appelle Comment j'ai adopté un dragon ou Comment j'ai adopté un gnou. En fait, il y a deux boîtes différentes, et finalement pour le même concept de jeu. Donc j'utilise les dés qui sont dans cette boîte de jeu pour, à chaque fois que je vais te poser une question, amener une petite contrainte. Des mots que tu devras placer dans ton discours, dans ta réponse. Ça te va?
Ouais, très bien, j'adore.
Super, excellent, trop bien. Et ma première question avant de lancer le dé sera la suivante. Quelles sont les compétences que tu mets en œuvre dans tes accompagnements? Ça va?
Ouais, ok.
Alors là, la particularité, c'est que je vais te demander de choisir un des deux premiers dés de couleur là, qui sont ici. Est-ce que tu préfères le jaune, le orange?
On va prendre le jaune.
Le jaune? Allez, c'est parti. Allez, je fais le lanceur de dés. Et donc, ce que tu devras placer comme début de phrase ou comme mot, c'est « quand j'étais petit ».
Ok.
Bonne chance.
Très bien. Eh bien, quand j'étais petit, je vais commencer par ça, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup déjà jouer. J'aimais beaucoup jouer parce que je trouvais que c'était extrêmement stimulant. Je trouvais ça stimulant d'être face à des problèmes et d'essayer de les résoudre.
Okay.
Et j'aimais à la fois l'exercice en lui-même, de réfléchir, et la sensation qu'on a une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a résolu. Et j'ai gardé ce goût-là de réfléchir, d'essayer d'assembler des morceaux dans le bon ordre, de trouver la logique des choses, trouver la logique des choses, analyser pour essayer d'avoir une vision générale qui soit la plus précise possible, la plus pertinente possible.
Okay.
Et ça, je pense que jouer depuis tout petit, ça a aiguisé ma logique, ça a aiguisé mon sens de l'analyse. Et aujourd'hui, dans les accompagnements, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Okay. C'est-à-dire, dans toutes les situations, dans un premier temps, je vais beaucoup écouter, beaucoup questionner la personne. Il faut que je récolte de l'information, comme ce qu'on fait quand on joue dans un jeu. On va récolter de l'information. Je pense en particulier les jeux d'enquête, qui sont les jeux que j'aime le plus.
Okay.
On va récolter de l'information. Et dans cette information, il va y avoir des choses qui sont utiles, des choses qui sont inutiles. On va commencer à faire un premier tri.
Ouais.
Une fois qu'on a récupéré de l'information, ça va amener une deuxième vague de questions. On va aller creuser, on va aller chercher du détail sur les informations qui nous paraissaient les plus utiles. Je pense que cette compétence-là de tri d'informations, de logique, d'analyse, de voir ce qui peut être pertinent, ce qui ne l'est pas, c'est ce qui me permet, moi, de construire mon arborescence dans l'accompagnement et d'arriver jusqu'à ces fameuses questions fondamentales qu'il faut que la personne se pose. Et une fois que j'aide cette personne à répondre à cette question, donc à apporter ses propres réponses, là c'est pareil, cette réflexion en arborescence va me permettre de balayer toutes les conséquences de chaque choix que la personne peut avoir devant elle pour l'aider à ouvrir ses perspectives. Donc voilà, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer et rapidement j'ai aimé créer aussi. Et c'est ce goût pour la réflexion, l'analyse, la logique, je pense que c'est ça qui me reste aujourd'hui.
D'accord. Compétences de tri, d'analyse, de recueil de données, d'écoute.
D'écoute dans un premier temps, parce que c'est de cette manière-là qu'on va recueillir les informations auprès de la personne qu'on accompagne.
Ouais.
Et puis ensuite, le tri, l'analyse logique, et puis notre compétence qu'il a fallu développer, c'est le miroir un petit peu, ce qu'on ne fait pas dans un jeu. C'est renvoyer à la personne ce qu'elle me dit, mais reformuler d'une autre manière, épurer, synthétiser, et puis... Je vais essayer de faire pour cette personne des mises en relation entre les différentes choses qu'elle me dit et qu'elle, elle n'a pas connecté.
D'accord.
Pour l'éclairer et puis l'amener à un moment donné à ce que les réponses qu'elle cherche deviennent des évidences en fait.
Ouais, effectivement. D'accord. Très bien. Excellent. Bien. Et du coup, on va passer à la deuxième question.
Ouais.
T'es ok ?
Ouais, pas de soucis, on y va.
Avec un nouveau dé ?
Ouais.
La deuxième question, c'est quelle est la singularité de tes accompagnements ?
Ok.
Alors, des oranges, des rouges ?
Eh ben, prenons le rouge.
Le rouge, très bien. Allez, c'est parti. Allez, je lance le dé et on est sur...
Quand soudain.
Ben, c'est amusant.
Pas facile à placer. Ben,
celui-là. Effectivement, celui-là, il est un peu plus challengeur.
Donc, la singularité de mes accompagnements.
Oui.
C'est ça.
Ouais, exactement.
Quand j'accompagne des personnes, souvent, les gens ont envie, ressentent le besoin d'avoir mon opinion. C'est ce qu'ils font déjà spontanément avec leur entourage. Ils vont chercher l'opinion des gens et avec l'espoir que ça les aide à prendre des décisions. Soit que ça les conforte dans leur première idée, donc ça leur donne l'impression que leur idée est bonne pour eux-mêmes. Soit au contraire, ils vont chercher l'autorisation. La justification à renoncer, à abandonner à des choses qui leur font peur. Donc, si quelqu'un lui dit « Oh là là, attention, c'est risqué ce que tu t'apprêtes à faire », ils peuvent s'abriter derrière cet avis qu'on leur a donné pour se dire « Oui, je prends pas de risque et je ne fais pas cette chose. » Et donc, moi, je questionne les personnes d'une manière relativement neutre.
Oui.
Et parfois... Soudain, alors que je leur pose des questions, eux me demandent mon avis. Et tout aussi soudainement, je ne leur donne pas mon avis. Et je leur explique. Je leur explique que mon avis, si je leur donne mon avis, je vais nécessairement leur dire ce que je ferai à leur place. Et je ne suis pas eux. Mes moteurs, mes valeurs... mes sensibilités ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que font les gens qui sont bien intentionnés autour d'eux aussi. Et ils se projettent à leur place. Ils disent « tu devrais faire ça, c'est bon pour toi ». Sous-entendu, c'est mon opinion. Et moi, en transférant ma pensée en toi, peut-être de manière inconsciente, je ferai ça moi-même. Parce que selon ma logique, selon mes valeurs, ça c'est bien. Et je pense qu'un bon accompagnateur, il doit réussir à mettre de côté, parfois, ce qu'il pense lui être bien ou pas bien, même ce qu'il pense être bien ou pas bien pour la personne qu'il a en face de lui. Ça, c'est une forme d'altérité, en fait. C'est considérer vraiment que l'autre, c'est pas toi, et que tu peux considérer, pour lui, que ce projet-là est super bon, peut-être que c'est pas le bon projet pour lui. Et donc, peut-être la particularité de mon accompagnement, c'est cette posture d'altérité que j'ai apprise par la médiation et qui fait que à une question, je vais retourner une question en fait. Je vais retourner une question et ça peut générer de la frustration chez la personne en face.
J'entends bien.
Et je dis, si tu veux l'avis des gens, tu as un milliard de personnes autour de toi à qui tu peux demander. Mon avis à moi ne vaut pas mieux que ces avis-là. Pour moi, ce qui est important, c'est de t'aider à faire ton avis à toi qui peut être contraire à ce que 50 personnes vont te dire. Il n'y a que toi qui vas pouvoir savoir à la fin ce que tu veux faire, ce qui est bon pour toi.
Exact.
Donc voilà. Ce que je pourrais répondre.
Ok, yes. Donc ce serait là la touche personnelle que tu apportes dans ton accompagnement. Mmh. Tu en vois d'autres touches?
Ça va ramener un petit peu à la première question.
Oui.
C'est, je pense que à force de déguiser sa logique,
oui,
la logique devient très instinctive.
Uh-huh.
Et tu as de moins en moins besoin de réfléchir pour que les pièces du puzzle s'assemblent. Okay. En fait.
Okay.
Pour voir les cohérences, les incohérences.
Mmh.
Et du coup, je pense que je suis assez percutant sur l'efficacité à mettre le doigt au bon endroit et rapidement, sans avoir besoin de creuser très longtemps. Je gagne du temps en fait.
Okay.
Grâce au jeu, hein, yes, voilà, grâce à l'expérience accumulée en jeu, c'est
avec
des choses
jeu,
qui,
voilà,
okay, qui s'apprennent pas forcément la logique. On façonne notre logique à force de la confronter à des situations en fait.
Oui.
Et la multiplicité des situations fait que notre organe logique devient plus efficace,
ouais,
je pense.
Ouais, ok. Oui, il y a quelque chose. On revient de plus en plus au jeu et on se rend compte à quel point c'est important. On fait partie de. La plupart des mammifères apprennent petits à travers le jeu.
Mm.
C'est quelque chose d'inné pour la plupart des mammifères. C'est comme ça qu'on apprend tous les codes sociaux, qu'on apprend. En reproduisant, en faisant, on est dans des jeux de rôle, on reproduit ce que fait papa, on reproduit ce que fait maman, on reproduit ce que fait les géniteurs en fait, pour apprendre comment se positionner dans la société ou dans la famille tout simplement, et apprendre les choses basiques de la vie en fait, comment marcher, comment manger, etc. Et du coup c'est chouette d'avoir cette opportunité, je trouve, maintenant. Parce qu'il y avait pour moi beaucoup de préjugés sur le jeu avant, de retrouver cette dimension ludique maintenant en tant qu'adulte et de pouvoir même le proposer dans son accompagnement ou dans une dimension professionnelle. Je trouve ça vraiment super. Et là, donc, du coup, là, tu me parles de cette singularité, moi ça me à la fois ça me touche et puis ben, ça fait écho. Hein, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre justement en tant qu'adulte en retrouvant cette manière de fonctionner qui était innée en nous en fait, en se reconnectant à ça. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis complètement d'accord. Et puis surtout aujourd'hui, alors peut-être grâce au marché, on va dire commercial du jeu,
oui,
hein, ça a donné aux créateurs de jeux des moyens qui sont de plus importants pour déployer, décupler leur créativité.
Mmh.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une variété de jeux, de modalités de jeux qui est énorme.
Mmh.
C'est ça aussi qui a contribué à valoriser le jeu dans le regard de la société et à voir que le jeu pouvait être un outil aussi pour plein de choses. Donc toi, tu l'envisages dans un but thérapeutique.
Oui.
Ça peut être une option très intéressante à creuser, tu vois, à voir de quelle manière le jeu peut aider les gens à se sentir mieux, à aller mieux.
Mmh.
À répondre au projet de se sentir mieux,
yes,
quelque part. Et puis le jeu aujourd'hui est surtout beaucoup utilisé pour recréer du lien entre les personnes.
Mm.
Ça répond aujourd'hui à un impératif de reconnexion, prendre le contre-pied de tout ce que Internet, la dématérialisation a créé dans la société.
Mm.
Aujourd'hui, les entreprises sont très demandeuses de faire du team building dans lequel les gens vont interagir, apprendre à se connaître, mmh, chose qu'ils font de moins en moins parce qu'ils travaillent de plus en plus sur un poste de travail, en télétravail, à distance, ce genre de choses. Donc il peut y avoir énormément d'objectifs sous-jacents au jeu.
Mmh.
Et ce que je trouve très intéressant dans le game design,
oui,
c'est que maintenant, quand on crée un jeu, on ne crée plus uniquement un jeu dans le but de divertir.
Mmh.
On peut créer un jeu avec plein d'objectifs sous-jacents. D'apprendre quelque chose ou d'acquérir des savoir-être, des compétences,
mmh,
ou bien bah, créer une forme d'interaction, une forme de relation entre les personnes qui va laisser une trace, qui va laisser une empreinte, qui va ancrer le lien entre ces personnes. Et ça, c'est super. Le jeu devient un outil social.
Ouais, exact, tout à fait. Il y a bien des vertus, mais effectivement, une des plus importantes, c'est celle-là, effectivement. Carrément.